On est de retour dans le 7, il est 7h30 actuellement. Je suis en direct avec le professeur Xavier Roucou. Bonjour monsieur Roucou.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes professeur et directeur du département de biochimie et de génomique fonctionnelle et titulaire de la chaire de recherche du Canada en protéomique fonctionnelle et découverte de nouvelles protéines fondée il y a 6 ans. Donc vos recherches portent sur les génomes humains. Pourriez-vous en fait, pour les auditeurs, faire un survol de qu'est-ce que le génome et son rôle dans le corps ?
Oui, bien entendu. Donc le génome, donc c'est le lieu physique dans chacune de nos cellules où sont stockés nos gènes. Donc nos gènes produisent des ingrédients finalement comme les protéines qui nous servent à toutes les fonctions biologiques qui ont lieu dans nos cellules à chaque instant. Donc si nous sommes capables de voir, d'entendre, de goûter, de courir, de contracter nos muscles, donc tout ça ce sont des protéines qui font ce travail-là et ces protéines sont exprimées à partir de nos gènes. Donc le génome, c'est l'ensemble des gènes dans nos cellules qui vont produire ces protéines, ces ingrédients-là. Donc c'est très important les études sur les génomes pour comprendre donc comment nos cellules fonctionnent et puis qu'est-ce qui se passe dans les maladies par exemple où nos gènes ne sont pas fonctionnels ou quand il y a des mutations dans ces gènes-là.
D'accord, donc vous-même vous parlez que c'est très important de faire des études sur le génome,
oui.
Mais il y a maintenant 10 ans vous avez découvert une protéine alternative.
Oui.
Qu'est-ce qu'une protéine alternative et surtout on explique qu'on n'avait jamais vraiment fait de recherche sur cette protéine spécifique, pourquoi en fait on n'a jamais eu de recherche là-dessus?
Ce qu'on pensait il y a 10 ans de ça, c'est que chaque gène possède l'information pour produire une protéine, donc un des ingrédients qui est produit par nos cellules. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pas tout à fait vrai. Nos gènes sont capables de produire plus qu'une protéine. Et on a appelé ces protéines-là, qu'on ne connaissait pas auparavant, donc des protéines alternatives, pour les différencier des protéines que l'on connaissait avant, que l'on appelle protéines de référence. La raison pour laquelle on ne connaissait pas leur existence auparavant, c'est parce qu'il y avait cette règle, un genre de dogme finalement, où on pensait que chaque gène possède l'information que pour une seule protéine. Et on s'est aperçu que non, finalement, après le séquençage des génomes, on a bien regardé la séquence des gènes, et puis on s'est aperçu que non, il y avait plusieurs possibilités pour un gène de produire différentes protéines. Donc, et quand on connaît pas ces protéines-là, ben on développe pas des outils scientifiques pour pouvoir les détecter, étudier leurs fonctions. Donc finalement, on les a appelés aussi des protéines fantômes parce que ne connaissant pas leur existence, ben on les étudiait pas. Elles étaient produites par les cellules, mais on le savait pas. Donc c'était comme des fantômes dans la cellule. Mais ça a changé depuis 10 ans. Donc il y a vraiment beaucoup de laboratoires maintenant qui étudient ces protéines-là.
D'accord, mais ce que j'essaye de comprendre, c'est
oui.
De quelle manière vous, en fait, vous avez décidé de travailler là-dessus.
Oui.
Parce que, comme vous dites, on ne savait pas que ça existait ou quoi que ce soit, mais dans le sens où vous avez décidé de rechercher ces cellules-là en particulier, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à mener ces recherches ?
C'est vraiment une excellente question. En fait, c'est une coïncidence. Effectivement, personne n'aurait eu l'idée d'aller chercher ces protéines-là. Donc, c'est une observation, une expérience. On avait un résultat qu'on n'arrivait pas à expliquer, donc un signal qui n'était pas censé être là. Et quand on a essayé de comprendre, ça a pris plusieurs années, hein, parce que c'était pas le point, c'était pas le projet majeur du laboratoire. Donc on avait un résultat qu'on n'arrivait pas à expliquer. On s'est cassé la tête pendant des années, mais en faisant d'autres choses en parallèle. Et puis finalement, il y a un étudiant dans le laboratoire qui a pensé à une explication. On a testé cette hypothèse-là et on a vu que c'était une nouvelle protéine. Et puis après ça, on s'est posé la question, mais est-ce que cette nouvelle protéine qui est produite à partir de ce gène en particulier, est-ce que ce phénomène-là existe pour d'autres gènes dans le génome? Donc on a été voir ce phénomène à large échelle et on s'est aperçu que c'est effectivement le cas.
C'était donc une intéressante découverte pour tout le monde, je pense.
Oui, absolument, parce que c'est pas souvent la façon que la recherche scientifique marche. On a une hypothèse et puis on teste cette hypothèse. Parfois on a raison, parfois on a tort. Mais là, on est parti d'une observation sans tester une hypothèse. Donc on n'a pas cherché à démontrer que ces protéines-là existent. Pas du tout. C'est vraiment une observation accidentelle, inattendue.
Effectivement. Ouais. Est-ce que le fait que vous avez trouvé cette protéine-là, ça a poussé en fait à ce que vous lanciez la plateforme open source, donc OpenProt, en 2019?
Absolument. Donc, si on veut que les autres laboratoires à travers le monde étudient ces protéines-là, donc il faut leur donner une base de données complètement ouverte qu'ils peuvent interroger pour aller voir si dans tel et tel gène, on a à peu près 21 000 gènes dans le génome humain qui permettent de produire des protéines. Donc, est-ce que dans leur gène d'intérêt, il y a possibilité de produire plusieurs protéines? Donc on a créé cette base de données ouverte OpenProt qu'ils peuvent interroger gène par gène ou tous les gènes à la fois, et ça va faciliter la détection des protéines dans leurs échantillons biologiques et puis l'implication de ces protéines-là dans des maladies ou dans des fonctions biologiques normales.
Donc en soi, vous aidez les autres institutions à travailler sur ces génomes?
Oui, absolument. On fait ce que d'autres institutions ont fait pour nous auparavant, c'est-à-dire qu'ils ont créé des bases de données ouvertes qui répertoriaient les protéines connues, les protéines de référence. Ben, nous, on fait la même chose, mais on rajoute à ces protéines-là les protéines alternatives pour stimuler la recherche sur ces protéines-là.
D'accord. Ben, écoutez, c'est super intéressant. Je ne connaissais pas et puis je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant en fait, de toutes ces recherches-là. Donc, c'est toujours très pertinent d'en parler sur nos ondes. Et puis, évidemment, si les personnes veulent aller en apprendre un peu plus, vous pouvez aller lire l'article qui a été mis en ligne sur le site de l'Université de Sherbrooke dans la rubrique Nouvelles. Donc, merci beaucoup, Monsieur Roucou. C'était vraiment très intéressant. J'en ai appris vraiment beaucoup de choses. Et évidemment, pour ceux qui veulent écouter cette entrevue, vous pouvez aller sur notre site cefac.ca si vous voulez la réécouter ou si jamais vous ne l'avez pas écoutée. Donc, je vous remercie encore beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Roucou.
Merci à vous. Bonne journée.